Lisa Westerhoff de RFI, je voulais quelques détails sur l'offensive menée contre les FDLR. C'est une question au Force Commander. Est-ce que cette offensive contre les FDLR va se poursuivre et pendant combien de temps? Et pourquoi s'être concentré sur cet axe précisément? Quel était l'objectif spécifique de cette offensive?
Merci. Général, c'est à vous. J'espère que vous avez compris la question. Oh, on a perdu Goma, nous avions des problèmes techniques au début. Peut-être que le colonel Félix Bass peut te donner quelques éléments de réponse en attendant que nous rejoignions Goma. Colonel?
Oui, vous avez parfaitement raison d'évoquer l'opération qui a été lancée depuis le 9 sur l'axe Kichanga, Kalembe et Pinga. Justement pour mettre un terme aux activités négatives des FDLR, parce que n'oubliez pas que les FDLR contrôlaient cette région pendant très longtemps. Le général d'ailleurs l'a souligné depuis au moins 2 ans. Et sur cet axe de Mueso pour aller vers Kichanga et Pinga, les FDLR avaient érigé beaucoup de barrières et procédé à des perceptions de taxes illégales. Donc il fallait mettre un terme à cette activité. Après la défaite du M23, il fallait prendre en compte les autres menaces que constituent aussi bien les groupes armés étrangers, notamment les FDLR et les ADF Nalu, mais aussi les groupes locaux. Et donc la raison fondamentale de cette opération, d'ailleurs c'est dans une dynamique normale dans laquelle nous nous sommes engagés, pour mettre un terme, comme nous l'a confié d'ailleurs le mandat, la résolution 2098, qui consiste à mettre un terme, à neutraliser tous les groupes armés. Donc c'est dans ce cadre global que des opérations sont planifiées et elles vont durer le temps que ça devra, avec la collaboration des FRDC, pour arrêter toutes ces exactions et mieux protéger les populations civiles.
Je précise aussi que hier, lors d'une interview sur Radio Capi, le général Dos Santos a précisé que pendant que cette opération se mène, il y a des patrouilles le long de la frontière avec les pays voisins pour sécuriser ces frontières afin qu'il n'y ait pas de débordement de ces côtés-là, afin que les activités, les opérations puissent être contenues sur le sol congolais. Je crois que c'est important de le souligner. Nous allons, en attendant de retrouver Goma, continuer ici. On va prendre une troisième question sur la gauche. Monsieur, allez-y, oui.
Honoré Mbenga, agence presse associée à PIA. Ma question s'adresse à monsieur le porte-parole intermaire. Je voudrais avoir un peu éclairage en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures judiciaires. On voit que l'effort est beaucoup axé à l'est qu'à l'ouest, alors que les problèmes de justice de proximité concernent les hommes. Pourquoi toujours à l'est?
Merci. J'avoue que la question de la réforme de l'administration pénitentiaire est inscrite dans le cahier des charges de la MONUSCO et la MONUSCO s'évertue depuis de longs mois, j'allais dire de longues années d'ailleurs, à s'investir sur ce volet. Beaucoup d'actions ont été menées, c'est vrai, au nord, au sud, Kivu et à travers sur le continent, le pays, mais on est ouvert et je crois que l'administration pénitentiaire qui est présente ici travaille beaucoup déjà à Kinshasa, notamment dans les différentes prisons qui sont, comme vous le connaissez de la ville. Et puis, quelques activités ont été menées aussi dans les quelques villes de l'ouest du pays. C'est vrai que l'effort est concentré à l'est, mais on n'oublie pas cependant l'ouest. Nous allons passer plutôt sur la droite ici.
Oui, Albert Omban, America TV. Je voudrais revenir sur la question des FDLR. Est-ce que, en précisant le track des FDLR au niveau de Pinga, est-ce que la MONUSCO a organisé conjointement aussi de patrouilles ou des tracks contre les FDLR dans l'axe sud, Chabunda, Walungu, Kalehe, pour maîtriser une fois pour toutes ces FDLR? Parce que si on fait seulement du côté nord, ils risquent de se déplacer pour aller au sud et vice-versa.
Merci, général. C'est à vous. Vous avez compris la question?
Oui. Everybody knows that FDLR is spread in many.
Nous avons un problème de son. On ne vous entend pas du tout à Kinshasa ici. Est-ce que du côté de la technique, on peut améliorer le son à Goma? Est-ce que, colonel, en attendant, vous avez quelques éléments de réponse ou... oui. C'est venu. Le son est bon? On ne vous entend pas ici.
Vous nous entendez?
Oui, c'est bon maintenant. Allez-y.
FDLR is spread in many different places in North Kivu and South Kivu.
Donc le FDLR est réparti à travers de nombreuses localités entre le Nord et le Sud Kivu.
In small groups in many different places and very remote places as well.
Ils sont divisés en petits groupes et dans des endroits parfois éloignés.
Then we are operating here. We have a plan to go till the end. Our actions will don't have one specific time, and then we are going to move ahead. But it's impossible to go to all the places at the same time.
Notre opération n'a pas de limite de temps. Nous allons essayer d'arriver à tous les endroits, mais vous savez qu'il est difficile de pouvoir donc atteindre des endroits parfois très éloignés.
But for sure we are operating here. We are going now to the west and north of in North Kivu. And we have a plan to go to the South Kivu as well. But we have more troops in South Kivu to use in the operation.
Évidemment, pour le moment, nous opérons aux environs de Pinga, mais nous avons le projet, nous avons donc dans la planification de descendre en direction du site Kivu pour pouvoir aussi mener les mêmes opérations.
Then it's not possible to operate in all the points at the same time. We need to have a sequence in the actions.
On ne peut pas opérer partout en même temps. Nous devons donc avoir un plan d'action et un séquençage pour pouvoir donc opérer dans le temps et dans l'espace.
And the operation will continue till the end.
Mais cette opération ira jusqu'à sa fin.
That's why we are here.
Et c'est pour la raison pour laquelle nous l'avons lancé et nous sommes là pour ça.
Général, on vous avait perdu, mais la correspondante de Radio France Internationale demandait pourquoi avoir choisi cet axe maintenant, Pinga, Kichanga, pour lancer des opérations contre les FDLR. Et est-ce que l'offensive est toujours en cours?
Kichanga.
Kichanga.
Kichanga, Pinga.
The operation of Kichanga, from Kichanga to Pinga, we start actually the operation in Pinga we start 2 weeks ago.
L'opération a été lancée il y a de cela 2 semaines.
We had a deployment by helicopter in Pinga.
Nous sommes déployés par hélicoptère à Pinga.
Initially and then now we moved to free the road to the normal life of the people along the road.
Et à partir de Pinga, nous sommes déployés le long des axes pour pouvoir libérer la route.
In support to the FARDC because FARDC is leading the process, is leading the plan.
Tout ça se fait dans l'appui donné aux forces armées de la République démocratique du Congo parce que c'est elles qui sont leaders dans l'opération.
And now from Pinga we are expanding the influence of our operations.
À partir de Pinga, nous allons étendre notre opération aux alentours.
We have more than one operation at the same time because you know that we have
nous menons plusieurs opérations à la fois parce que vous savez qu'il y a plusieurs groupes armés ici.
At the same time we are intensifying our patrols close to the border here to isolate the problems from the neighbors.
Actuellement, nous sommes en train de mener des patrouilles le long de la frontière pour pouvoir isoler les groupes armés des frontières avec les voisins.
It's very important to not let the armed groups create problems with the neighbors.
C'est très important de ne pas laisser les groupes armés traverser et créer des problèmes avec les pays voisins.
And then, at the same time, we are operating in 2 fronts.
C'est pour cela que nous opérons sur 2 différents fronts.
Merci. Nous allons continuer avec des questions. Une dernière question ici à Kinshasa avant d'aller à Goma.
Merci. C'est venant vous dire ça pour la RTNC. Ma question s'adresse au général. Retombée du sommet France-Afrique appelé sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité. 20 000 soldats seront formés chaque année africains et 100 000 dans les 5 ans qui vont venir. Ma question, c'est l'inquiétude que je partage, peut-être ce qui n'est pas de leur avis, sur l'avenir des forces des Nations Unies, communément appelées les casques bleus. Mon colonel, vous avez parlé tout à l'heure des troupes qui se sont rendues, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait jusque-là. Ils se sont rendus, vous les gardez ou qu'est-ce que vous comptez en faire? Merci.
Santos.
Funds,
nothing to do
with that. Yeah. You're spending 2,000
Okay. Okay.
Go ahead, Gerard.
Okay. On the information we have in the newspapers, in the media, and the proposal to France for training African troops. It's one question, it's not related to me. But what I may say, the only thing I may say is that I'm very happy to have African troops with me in the intervention brigade. What I may say on African troops is I'm very satisfied, very happy with the African troops in the intervention brigade. Thank you.
Je n'ai rien à voir avec le projet français rapporté par les médias d'entrée des soldats africains, mais ce que je peux vous dire, j'étais très fier d'avoir des soldats africains avec moi ici, surtout au sein de la FAIB. Je vous remercie.
Voilà, nous allons rester à Goma pour prendre quelques questions de journalistes sur place à Goma.
Ok, monsieur là.
Oui, merci. C'est Jérémy Kihambu pour Radio Taïna. Et si bien la MONUSCO a lancé l'opération... Oui, je pose la question à Dos Santos, le général. Oui, je voulais savoir, d'ici peu, il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, le porte-parole des FDLR a annoncé sur Radio France Internationale que ils sont prêts pour déposer les armes, mais à condition qu'il y ait un dialogue franc avec le Rwanda, donc Kigali, quoi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes vu avec Kigali pour savoir quelle est la position de Kigali pour que ces gens puissent déposer les armes calmement?
C'est une question politique. Je veux donner la réponse en tant que représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Nous ne discutons pas avec les FDLR. Les FDLR sont considérés comme une force négative. Ils doivent désarmer ou nous allons les engager.
Voilà.
Je crois avoir répondu à votre question.
Oui, monsieur. Ma question s'adresse au général. Mon général, est-ce une stratégie militaire ou politique de laisser sur place les armes abandonnées par l'ennemi et le M23, par exemple à Tianzhou ou dans d'autres caches d'armes? Comment se déroule pour se prendre en charge la sécurisation de ces armes car elles sont si proches des bases arrières de l'ennemi?
The weapons and ammunition that they left behind when they fled mainly Tianzhu and some other places here, this material is in the hands of the government, in the hands of FARDC.
Le matériel, qu'il s'agisse des armes comme des munitions laissées par le M23 dans sa fuite, sont entre les mains du gouvernement congolais.
Obviously, there is a commission studying to identify and to know the origin of this material.
Évidemment, j'ai demandé qu'une commission soit mise en place pour l'origine et la provenance de ce matériel.
We have the group of experts. We have one commission as well that we organized inside MONUSCO.
Nous avons un groupe d'experts et au sein de la MONUSCO aussi, nous avons mis en place une commission.
And they are studying, they are identifying the material, they are identifying the origin, the time when the material was made, and then and after that they will compare with the time of the arms embargo.
Donc cette commission actuellement est en train de mener ces opérations, ces procédures pour pouvoir identifier formellement l'origine et la date de ce matériel, et une fois que ce sera établi, nous en saurons quelque chose.
Then it's a very technical work that we need to wait because it takes a long time to have the conclusions.
Ce travail demande donc un travail très poussé, très technique, et ça demande aussi du temps pour qu'on connaisse les résultats exactement.
Merci au général. Je crois que nous allons passer rapidement, avec votre permission, Alexandre et Sommé. Nous allons passer la parole au général Wafi pour qu'il nous donne les grandes lignes du rapport donc du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme qui porte sur les violences, les violations des droits de l'homme en période électorale. Général Wafi, c'est à vous.
Merci Charles. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme il vient de le dire, nous avons donc... aujourd'hui, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui porte sur les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont été commises pendant la période électorale en République démocratique du Congo, ainsi que sur les mesures qui ont été prises par les autorités congolaises en réaction à ces violences. Et donc, ce rapport analyse les différentes violations des droits de l'homme qui ont été commises entre le 1er octobre 2011 et le 31 janvier 2012 dans le contexte des élections présidentielles et législatives sur l'ensemble du territoire de la RDC. Il passe en revue aussi les mesures qui ont été prises par les autorités congolaises en réponse à ces violations jusqu'au mois de novembre 2013 pratiquement, donc jusqu'au mois dernier, soit 2 ans après la tenue de ces élections. Et notamment en ce qui concerne la poursuite des auteurs présumés de ces violations devant les juridictions congolaises. Alors, naturellement, pour vous donner très succinctement les conclusions de ce rapport en ce qui concerne ces violations de droits de l'homme, nous avons enregistré entre le 1er octobre 2011 et le 31 janvier 2012 près de 345 violations des droits de l'homme liées au processus électoral et qui ont fait près de 769 victimes. Sur ces victimes, nous avons, en les différenciant par catégorie, près de 41 personnes ont été tuées au cours de ces violences électorales. 168 personnes ont été victimes d'atteintes à l'intégrité physique d'une façon ou d'une autre. Presque 400 personnes ont été victimes d'atteintes à la liberté d'expression, à la liberté et à la sécurité des personnes. Le Bureau conjoint a pu ainsi documenter 26 atteintes à la liberté de réunion pacifique, 42 atteintes à la liberté d'expression et près de 18 atteintes à la liberté de la presse. En réaction à ces rapports, les autorités congolaises ont naturellement décidé de mesures judiciaires, notamment par le lancement d'investigations pour pouvoir établir ces différentes violations, en identifier les auteurs et les poursuivre devant les juridictions compétentes. Ainsi, le procureur général de la République, l'auditeur général militaire ont été instruits d'ouvrir des investigations judiciaires, ce qui a été fait. Et ce, nous le rejetons. Mais, malheureusement, au stade actuel des choses, nous avons constaté que, pour l'essentiel, les poursuites judiciaires qui ont été initiées n'ont pas abouti. Et donc, en ce qui concerne, naturellement, les recommandations que nous faisons à la suite de ce rapport, c'est naturellement, en tout premier lieu, d'encourager les autorités congolaises et notamment les autorités judiciaires pour que ces investigations judiciaires soient conduites à leur terme, pour que les responsables de ces violations, à un titre ou à un autre, soient traduits devant les juridictions compétentes et rendent compte pour ces faits qui sont contenus dans le rapport. Naturellement, il y a lieu aussi, le cas échéant, en ce qui concerne du moins les fonctionnaires et agents de l'État qui ont abusé de leurs prérogatives à des fins partisanes, il faut aussi, conformément à la loi congolaise, des mesures disciplinaires pour les sanctionner. Nous avons aussi, en ce qui concerne, par exemple, les libertés, les atteintes à la liberté de presse, de soutenir le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans son mandat et de renforcer ses capacités pour que il soit à même d'exercer ses prérogatives pour éviter ces suspension souvent intempestive et qui, à nos yeux, constitue une atteinte à la liberté de la presse. Nous avons aussi demandé à ce que des programmes de renforcement de capacités, de formation à l'endroit des forces de défense et de sécurité soient faits pour éviter, pour les cycles de le prochain cycle électoral, éviter ces différentes violations et pour que nous puissions, lors des prochaines consultations électorales, avoir des élections apaisées et éviter autant que faire se peut la répétition de ce que nous avons vu en 2011, du moins en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans ces périodes électorales. Voilà très brièvement l'économie de ce rapport. Et naturellement, je serai heureux de pouvoir répondre à vos questions sur ce rapport. Je vous remercie.
Voilà, merci donc à Monsieur Abdallah Wafi depuis Goma. Nous allons rester à Goma pour prendre des questions sur ce rapport. Je dis bien sûr ce rapport et non pas sur les autres sujets que nous avons déjà couverts. Hein. Restons donc à Goma. Alexandre, c'est à vous.
Des questions sur le rapport ? En faisant un peu, en collant le rapport, il semble que c'est le rapport là n'a fait que reporter le fait après les élections. Mais quand on considère la Kinshasa, moi j'étais à Kinshasa, les violences, les plus grandes violences, ça ont été avant même les élections. Après les élections, c'était presque un accalmie. Avant les élections, là, les gens sont morts. On a tiré vraiment sur les gens. Mais ici, on ne trouve pas ça.
Alors, encore une fois, le rapport est disponible. Je pense qu'il serait d'abord intéressant de prendre connaissance de ce qui est dans le rapport avant de pouvoir faire des informations de cette nature. Mais encore une fois, ce rapport du Bureau conjoint des droits de l'homme n'a pas l'ambition d'être exhaustif. Et comme vous pouvez le voir, nous avons mis du temps pour essayer, à travers nos 18 bureaux de terrain, là où nous sommes représentés, pouvoir avoir une idée aussi précise des faits qui sont produits. Mais aussi, par rapport à notre méthodologie, nous n'avons fait état que des éléments qui ont été documentés par nos enquêteurs, et c'est ce qui explique d'ailleurs que le rapport ne soit rendu public que maintenant.
Oui, monsieur.
Ouais. Après avoir lu les rapports, je réponds au nom de Roberto Kitukaong, je suis de la VBA. Que veut les Nations Unies sur les droits de l'homme après avoir à faire sortir ce rapport? Je vous remercie.
Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous savez que là, nous avons une nouvelle commission électorale nationale indépendante. Nous avons maintenant le prochain cycle électoral qui va se dérouler en République démocratique du Congo. Il nous est apparu extrêmement important de publier ce rapport en ce moment pour pouvoir attirer l'attention des autorités congolaises, mais aussi de la communauté internationale, pour que des mesures à titre pédagogique soient prises pour éviter la répétition de tels événements pour les prochaines consultations. Notre objectif, c'est que les prochaines élections RDC se déroulent dans la démocratie, dans un esprit apaisé, sans aucune violence, et permettre au peuple congolais de s'exprimer librement, sans aucune violence de part et d'autre, ni vis-à-vis des agents de l'État, ni contre les militants, ni contre les militants entre eux. Donc, c'est une contribution, nous voyons ce rapport comme une contribution au processus électoral en RDC.
Avec votre permission, nous allons repartir à Kinshasa pour permettre à Kinshasa de nous donner deux ou trois questions.
Voilà, nous allons prendre deux questions ici avant de boucler cette conférence de presse, une à droite et puis une à gauche. Allez-y.
Merci, c'est Fernand qui revient, vous dit ça pour la RTNC. Monsieur le représentant spécial, le rapport est publié 2 ans après, n'est-ce pas, que c'est caduc. Ensuite, vous signalez 345 violations liées aux droits de l'homme, dont 41 personnes tuées par qui et pourquoi? À vous.
Alors, le rapport est publié aujourd'hui deux ans après, pratiquement, après les événements. Pour autant, il n'est pas caduc, il ne sera jamais caduc. Il est bel et bien en vigueur et peut encore servir pour améliorer le cycle électoral à venir. En ce qui concerne votre question, quels ont été les responsables de ces tueries? Eh bien, c'est pour cela que nous avons partagé ce rapport avec les autorités, d'abord avec toutes les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire la police nationale congolaise, la garde présidentielle, l'ANR, tous les services de l'État. Nous avons partagé ce rapport dans la transparence avec eux pour avoir leur vue sur ces faits que nous rapportons. Mais aussi et surtout, il appartient aux autorités judiciaires congolaises, seules compétentes pour établir les responsabilités, situer et identifier les responsables de ces tueries pour le cas échéant les traduire devant les juridictions compétentes. Et un, c'est cela que nous visons aussi à travers le rapport. Il n'appartient pas ni à la MONUSCO, ni au Bureau conjoint des droits de l'homme de se substituer aux autorités judiciaires pour situer les responsabilités. Et c'est pour cela que j'ai dit, parmi les recommandations, nous encourageons vivement les autorités judiciaires pour que sur la base de ce rapport, comme d'ailleurs il a été fait, comme je vous l'ai dit, l'auditeur militaire général, le procureur général de la République ont été saisis, ont ouvert des investigations. Nous voulons que ces investigations-là aillent jusqu'au bout pour pouvoir identifier les auteurs et les châtier.
Une dernière question sur la gauche ici. Monsieur, allez-y. Oui.
Ma question voudrait avoir un éclairage. 345 violations. Vous avez dit, les responsables ont-ils été identifiés ou non par les autorités judiciaires? Parce que on voudrait, je ne comprends pas l'importance de ce rapport publié par le Bureau conjoint des droits de l'homme au cas où les responsables ou les commanditaires ne seront pas punis.
Alors, encore une fois, au risque de me répéter, ce rapport est un rapport des droits de l'homme. C'est un rapport qui peut servir et qui doit servir pour ouvrir des investigations judiciaires. Il appartient seul aux autorités judiciaires et il est extrêmement important. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que Bureau conjoint des droits de l'homme, accuser, poursuivre ou condamner. Il est extrêmement important que ce document, qui contient des informations assez pertinentes, assez documentées, puisse servir de base et que les enquêteurs nationaux et que les autorités judiciaires, notamment ceux chargés de la poursuite pénale, puissent s'en saisir et continuer à documenter pour pouvoir, un, établir les faits, situer les responsabilités, et poursuivre les auteurs pour leur rendre comptable leurs actes. Voilà ce que dit la loi congolaise et voilà ce que dit l'organisation judiciaire dans tous les pays démocratiques du monde.
Merci donc au général Wafi et merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Les documents relatifs à ce rapport sont disponibles et seront distribués et l'ensemble du bureau est disponible pour vous donner plus d'interviews ou d'explications à travers dans les heures qui suivent. Merci et bonne semaine à tous.